On est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouveau CQFR. Théo à mes côtés. Théo, il y a eu un seul match cette nuit, c'était celui entre les Knicks et les Pacers. Deuxième victoire de New York en demi-finale donc de conférence à l'Est. Deuxième victoire de suite, 130-121. Un match plus offensif que ceux auxquels les Knicks nous ont parfois habitués. Ça s'est joué sur le tempo des Pacers, mais c'est quand même les Knicks qui l'ont emporté avec quand même plusieurs frayeurs. Pas que des bonnes nouvelles quand même pour New York, c'est-à-dire que Jalen Brunson s'est blessé en première mi-temps, il a manqué tout le deuxième quart-temps. Quand il est revenu s'échauffer à la mi-temps, le Madison Square Garden a hurlé de plaisir de fait de retrouver son chouchou. Il a effectivement rejoué en deuxième mi-temps, il a mis 24 de ses 29 points en deuxième mi-temps, mais les Knicks sont aussi perdus OG Anunoby, blessé au ischio.
Ouais, c'était effectivement un match avec beaucoup de hauts et de bas pour New York qui a encore une fois fait preuve de ressources incroyables dans ce match. Tu soulignes l'absence de Jalen Brunson qui a été hallucinant. En fait, limite, tu sais, il m'a presque plus impressionné que dans des matchs où il a mis 40 points parce qu'il a été d'une justesse en revenant de blessure qui était impressionnante. Alors que, voilà, sur le moment, on ne savait pas trop ce qui se passait. Il avait pris un coup au niveau de l'aine. Au début, on pensait que c'était ça. Finalement, c'est le pied. Finalement, on n'a pas vu, du moins pendant le match, les commentateurs n'ont pas trouvé l'image précise sur laquelle il se blessait au pied. Mais il était incertain jusqu'au moment de revenir. Finalement, même il a, enfin, voilà, 4 minutes du début de la deuxième mi-temps, il choisit de finalement faire son retour. Il a été excellent. Ce qui était impressionnant dans ce match, c'est qu'il y a eu différents scénarios et c'est le deuxième match où j'ai l'impression que ça se joue sur le tempo des Pacers et en même temps finalement les Knicks prennent un peu l'Indiana à leur propre jeu quelque part et on a vu pourtant des ajustements d'Indiana marquants dès le début du match. Ils faisaient une presse tout terrain, même sur panier marqué ils restaient pour essayer de ralentir le jeu de New York et essayer d'handicaper un petit peu les New Yorkais en sachant que de toute façon il y aurait très peu de rotation. Ça n'a pas marché, les Knicks ont été excellents une fois encore dans le clutch. À un moment il y a une petite stat qui s'était affichée sur le synthé qui montrait que New York était la meilleure équipe des playoffs dans les matchs serrés et ça s'est démontré une fois encore. Voilà, j'ai trouvé cette équipe des Knicks vraiment impressionnante dans sa capacité à trouver des solutions. Que ce soit en sortie de banc, oui, un petit peu, parce que même si le banc est peu utilisé, en fait, ceux qui ont été utilisés ont été bons. Tu parlais de Anunoby pour le coup, et pas sur le banc, mais il a complètement tenu la baraque pour New York quand Brunson n'était pas là. Il était monstrueux en première mi-temps. Ça va être intéressant. D'ailleurs, on en reparlera peut-être de voir ce que sa blessure va dire, ce que sa blessure va donner. Mais ouais, finalement, New York a jamais douté, j'ai l'impression, même quand ils se sont retrouvés menés au score, même quand tu disais, bon bah là, s'il n'y a pas Brunson, si ça va être trop compliqué pour les Knicks, non, ils ont réussi à trouver les ressources.
Parce que t'as raison, première mi-temps, le moment justement, donc Brunson il joue pas tout le deuxième quart-temps, et c'est le moment où Indiana prend 10 points d'avance. Finit ce carton avec 10 points d'avance, 37-27 sur le deuxième carton, il y a donc 10 points d'avance. Tu parles de jamais douter, il y a une quote de DiVincenzo, il dit mais j'avais aucun doute sur le fait que Brunson il allait revenir, tu vois, ça leur a même pas traversé l'esprit que Brunson ne rejouerait pas ne finirait pas le match vu l'enjeu, etc. Et effectivement Brunson il est revenu, alors il met 24 de ses 29 points comme je le disais au retour des vestiaires. Du coup sa série de 40 matchs à 40 points elle s'arrête, mais il met quand même 29 points en 32 minutes. Tu soulignais sa justesse. Il y a un autre joueur sur lequel j'ai envie de te lancer, c'est Isaiah Hartenstein qui met 14 points, 12 rebonds, 8 passes. Hartenstein 5 sur 7 au tir. C'est vraiment un joueur qui s'est ultra affirmé cette saison. Et là, on l'a vu dans le Game 2, on a vu toute l'importance qu'il pouvait avoir.
Ben ouais, c'est fou parce que tu sais, moi je le trouvais déjà très bon aux Clippers en fait avant qu'il vienne à New York. Il était intéressant dans le jeu. Et puis là, Bon, depuis le début des playoffs, il est très bon. Il a son petit hook main gauche. T'as l'impression qu'il n'en a jamais raté un de sa vie. Et c'est impressionnant son efficacité là-dessus. Mais par contre, ce que j'imaginais pas quand même, c'était ses qualités de passeur. Et là, en fait, ce qui était hyper intéressant au moment où Brunson est obligé de quitter le terrain, c'est que les Knicks ont fait passer le jeu par lui. Et limite, tu sais, il jouait un petit peu avec les principes de la Princeton Offense de l'époque, un petit peu des Kings, où les ballons passaient par lui qui se mettait au poste haut, puis les autres joueurs faisaient des coupes dans le dos ou des coupes au panier ou des ce qu'on appelle split action, là, quand t'as deux extérieurs qui se font un écran l'un pour l'autre, et puis soit il y en a un qui sort pour prendre un tir.
Anunoby est excellent sur ce genre de situation.
Exactement, c'est exactement ça. Et les mecs de Villanova aussi, on connaît le principe des des secondes coupes de Jay Wright à Villanova. Donc c'était parfait en fait, et il a été excellent quoi. Il finit avec 8 passes décisives, c'est limite je trouve l'une des stats les plus impressionnantes du match. Hartenstein, il a vraiment brillé dans ce match. À la fin, il va chercher un énorme rebond. Tu parlais du fait que les Knicks doutent pas sur la fin, tu peux en citer plusieurs en fait, des moments très forts. Il y a lui qui se jette sur un ballon et finalement ça touche le pied d'un Pacers à la dernière seconde, donc New York récupère une possession. Il y a Dante DiVincenzo à un moment qui est complètement dans le corner, qui sprint pour aller prendre un énorme rebond offensif et qui trouve Achiuwa sous le cercle. T'as Josh Hart qui met un 3 points qui casse un peu la confiance des Pacers sur la fin, et puis Brunson qui a été ultra clutch une fois encore. Tu sens que sur la fin il y a eu un enchaînement d'actions décisives de la part de différents joueurs en fait des Knicks qui était hyper intéressant, et c'était finalement assez étonnant le moment où Brunson n'était pas sur le terrain. Alors même si New York était en difficulté au niveau du scoring, je trouve qu'ils ont quand même trouvé le moyen d'animer le jeu en fait. C'est pas comme si tout était devenu mort tout d'un coup. Ils ont trouvé d'autres manières de jouer, de faire tourner la balle et de garder plusieurs joueurs en confiance ou plusieurs joueurs impliqués. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant ce passage.
J'aimerais parler un peu des Pacers et d'un joueur en particulier, c'est Tyrese Haliburton. Il avait fait un très mauvais premier match, enfin très discret en fait. C'est même pas juste que je l'ai trouvé mauvais, c'est que je l'ai trouvé discret. Et il n'avait mis que 6 points. Là, 34 points, 9 passes décisives, 3 interceptions. Le banc des Pacers a encore répondu présent. C'est plus Miles Turner dont la performance n'a pas été à la hauteur du Game 1. 6 points, 3 sur 11. Et en tout cas, les Pacers continuent d'être proches à chaque fois. Ça peut même être presque frustrant. D'ailleurs, il y a eu de la frustration. Rick Carlisle s'est fait expulser pour 2 fautes techniques. Alors lui, il en veut beaucoup aux arbitres. Il en a encore parlé après le match. Mais ça peut être presque frustrant ou encourageant, ça dépend du point de vue que tu as ou de la mentalité que tu as, pour Indiana d'être mené 2-0 en étant été deux fois quand même très proche de gagner, quoi.
Ouais, non, mais tu as raison. Ce qui est étonnant pour Haliburton, qui fait un énorme match, tu l'as dit, c'est que finalement, en temps réel, tu n'avais pas l'impression qu'il pesait tant que ça, en fait, alors que les joueurs du banc, qui est notamment Obi Toppin et TJ McConnell, ont eu un impact énorme, en fait. Alors, c'est peut-être des questions de timing. Bien sûr qu'Indiana n'aurait pas été aussi compétitive si Haliburton n'avait pas fait un aussi gros match. Je ne dis pas que son apport n'a pas pesé, mais c'est vrai que dans les moments où tu sais où il y avait des petits breaks, notamment pour Indiana, on pouvait avoir le sentiment que c'était notamment l'apport du banc qui permettait ça. Pour la fébrilité de Carlisle, je comprends, c'est ça qu'on n'en avait pas parlé quand on avait débriefé le premier match, mais les fans des Pacers et les Pacers avaient eu le sentiment de s'être fait un petit peu enfler par l'arbitrage à la fin, notamment, et voilà, il y a un ballon qui était censé avoir, est-ce qu'il a touché ou pas la jambe d'un Pacer. Ça avait beaucoup fait parler. Là, il y a une défaut technique que prend Carlisle, je la comprends pas vraiment en fait, parce qu'il y a vraiment une erreur d'arbitrage où sur la montée de balle, un arbitre pense que Isaiah Hartenstein a fait une reprise de dribble. Tu vois hyper clairement sur le ralenti que c'est pas le cas, et en fait ses autres collègues viennent le voir, annulent son coup de sifflet en fait, ce qui est la bonne décision je pense, et c'est là qu'il prend la première. Et là, là-dessus, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi cette action, en fait, où clairement c'est une erreur d'arbitrage comme c'est le cas parfois. J'ai pas trop compris pourquoi cette action-là lui avait fait prendre sa première. Donc tu donnes quand même un lancer franc sur la technique, et puis la deuxième, bon, la deuxième, tu sens que c'est plié, il veut vraiment remettre un coup de pression sur les arbitres en disant non mais quand on va aller Indiana, vous avez intérêt à inverser la tendance, le public il va vous attendre de près. Enfin, tu vois que c'est pour ça qu'il prend la deuxième. Mais ouais, bon, voilà, c'est toujours un peu compliqué de toute façon ce genre de choses.
T'as cité les lancers francs, d'ailleurs, on peut parler brièvement des lancers francs. C'est on a notre un de nos suiveurs, de nos auditeurs, Kikish, un fidèle de la Late Session, un later, qui avait d'ailleurs souligné ça sur le site Basket Session. Il a mis en avant le fait que les Pacers ont raté beaucoup de lancers francs. Enfin, ils en ont raté 7, ils ont shooté qu'à 58% au lancer. C'est vrai que ça peut être dans une série serrée comme ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence. Clairement, les Pacers de shooter à 58%, bon, ça pose problème si Akam a manqué ses deux lancers notamment. Faudra faire gaffe à bien être précis sur la ligne dans des matchs comme ça qui se jouent à peu de choses. C'est des détails importants.
Ouais, non, c'est clair. Surtout face à une équipe, encore une fois, on l'a souligné, mais qu'est-ce qu'elle est dure à battre. Josh Hart fait un match monstrueux encore.
19 points, 15 rebonds, 7 passes, Josh Hart, en 48 voilà. minutes. Et il est évidemment pas sorti, hein, je voulais dire.
Énorme match. Et à la fin, c'est intéressant parce que pareil, sur la toute fin, en fait, Indiana décide de faire prise à deux très tôt sur Brunson pour qu'il lâche la balle. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, les autres Knicks sont pas du tout attentistes. Ils sont allés provoquer des choses. ils ont forcé Indiana à être dans les rotations, et ça reste quand même la grosse, je trouve, faiblesse de cette équipe d'Indiana, c'est que dès qu'ils doivent rentrer dans les rotations, il y a souvent des gros décalages, alors qu'ils ont des bons défenseurs sur l'homme, TJ McConnell, excellent, je pense...
Dembard n'est pas mauvais, ouais,
Exactement, il a été même très très bon, voilà, enfin, ça veut pas dire que l'adversaire va rater, mais il a compliqué au maximum la vie de son vis-à-vis. Par contre, dès qu'ils sont dans les rotations, Indiana, il y a des écarts énormes.
Ouais, ils ont un manque de rigueur collective en défense. Ça va demander du temps, mais au final, tu sens qu'il y a la possibilité avec Siakam, avec Nembhard, il y a la possibilité de construire une équipe vraiment compétitive, même en défense, en fait, ou du moins suffisamment correcte pour être compétitive en playoff. Il faut juste qu'il y ait une meilleure prise de conscience collective, ou peut-être plus d'entraînement de temps, tu vois, que ça va se construire dans le temps, mais je suis d'accord avec toi, dès que tu fais tourner la balle, tu peux les ouvrir, créer des espaces et mettre des drives. Et ce que tu soulignes, c'est intéressant, ça me fait penser aux Mavericks, en fait, où tu vois, quand il y a des prises à deux, là, à part Kyrie, enfin, les mecs restent dans le corner, tu vois, mais ça peut être intéressant. T'imagines un Josh Hart qui jouerait ou un Dante DiVincenzo qui jouerait aux Mavericks. C'est des mecs parfaits. Les Knicks sont vraiment des sacrés basketteurs, quoi. J'ai commencé par Indiana pour arriver jusqu'à New York, mais tu sais, des vrais joueurs de basket. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par.
Si. Et puis là, on a fait beaucoup autour de ça, mais c'est vrai que c'est marquant quand même le côté les mecs de Villanova, parce qu'en fait c'était le fond de jeu en fait de leur fac. Ils ont joué ensemble, donc ils ont déjà en fait cette alchimie à être dans les coupes, couper dans le dos, aller au rebond offensif. Le fait que finalement il n'y a pas forcément un porteur de balle. Bien sûr que Jalen Brunson est le porteur de balle à titre de New York, mais ce que je veux dire, c'est que les autres sont capables aussi de créer. Dante DiVincenzo, il a été MOP du Final Four. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de mecs qui ont été habitués à prendre leurs responsabilités et en même temps à jouer un rôle, en fait. Et c'est ça que je pense qui est kiffant pour les fans des Knicks, et là où ils reconnaissent un petit peu l'ADN de l'équipe qui certainement les a fait vibrer, ou du moins l'ADN du club. Même on peut remonter aux années 70, hein, où c'était une équipe qui jouait très collectif.
C'était les 54 ans du premier titre, au passage. Excuse-moi, Théo, je te coupe.
Non mais t'as raison, avec le retour de Jalen Brunson, c'était aussi l'anniversaire du fameux retour de Willis Reed de blessure, donc il y avait toute une symbolique qui était en place. Il y avait une ambiance de folie dans le Madison je trouve que les Knicks aussi, souvent tu sais, on trouvait qu'avec James Dolan c'était n'importe quoi, il respectait pas vraiment l'histoire du club. Là il y a eu un effort conscient, chaque match il y a des anciennes légendes du club. Hier il y avait Bernard King, il y a même Stephen Marbury, Amar'e Stoudemire, des joueurs qu'on pesait dans l'histoire des Knicks, qui sont là au bord du terrain. Voilà, c'est, alors pour Stephen Marbury, c'est plus dans l'histoire de New York que dans l'histoire des Knicks, on est d'accord.
J'ai rien dit, tu vois. Ça va traverser l'esprit.
Je t'ai vu sourire derrière ta caméra. Non, mais c'est vrai, on avait vu, il y avait Starks, les mecs de 99, tout ça. Voilà, il y a quelque chose qui se passe autour de cette équipe qui est profond. Et voilà, cette équipe, elle est kiffante. Mais tu as raison, pour Indiana, il y a de quoi faire. Rick Carlisle, c'est un excellent coach défensif, donc il n'y a pas de raison qu'à un moment, il ne puisse pas changer un peu la donne. C'était intéressant de les voir être aussi agressifs sur le début de match en défense tout terrain. Il y a un moment où ça prendra, c'est peut-être pas la saison encore, mais voilà, l'avenir est devant cette équipe.
Juste un petit truc sur les Knicks, après on pourra passer sur autre chose, mais attention à l'usure. Tu as parlé, voilà, à la blessure d'Anunobi, Ischio, c'est pas sûr qu'il revienne. Anunobi, alors ça fait un peu rumeur de comptoir, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des bruits de coulisses sur le fait qu'il aimait pas forcément se faire mal et jouer blessé. Voilà, je vais le tourner comme ça. Il y a eu plus d'une fois au cours de sa carrière où il y a eu de ce genre de rumeurs. Après, c'est peut-être faux, tu vois. C'est, comme j'ai dit, c'est du bruit, ça fait un peu avis de comptoir, mais voilà, faudra voir est-ce qu'il sera là. Peut-être que lui, justement, vu l'enjeu, on est quand même en demi-finale de conférence, peut-être qu'il voudra tenir son rang, mais même s'il venait à être là, il sera probablement diminué. Jalen Brunson, on peut assumer qu'il est très probablement diminué. Dante DiVincenzo, il joue maintenant 44 minutes chaque soir. Alors, sa moyenne sur l'ensemble des playoffs est un peu moins, parce que lui, il tourne un peu. Il y a McBride qui rentre, le fameux Deuce McBride qui rentre de temps en temps, mais il y a aussi un petit risque à force de jouer autant de minutes. Et Josh Hart, j'en parle même pas. Josh Hart, il a joué 195 des 197 dernières minutes de jeu. Il n'est pas sorti depuis 10 quart-temps. 10 cartons de suite, et il est sur l'ensemble des playoffs à 47 minutes de moyenne. Et là, en fait, je pense que honnêtement, je pense que Josh Hart, il va pas sortir. Tant qu'il n'y a pas un blowout, il va pas sortir.
Non, mais t'as raison de le souligner. Pour Anunobi, c'est vraiment inquiétant parce que c'est pas le genre de blessure que tu peux ignorer non plus. C'est pas comme si tu t'es cogné quelque part ou tu as une cheville un petit peu douloureuse. Ce type de blessure est vraiment hyper handicapante. J'allais dire, c'est abusé ce que je vais dire, mais en fait, pendant tout le début du match, et à un moment, c'est marrant parce que les commentateurs l'ont dit aussi, mais ils étaient là, mais on l'a jamais vu être aussi agressif, Anunobi. Genre, en gros, c'était où tous ces trucs-là quand il était à Toronto de jouer comme un. Bah, vraiment, tu sais, tout ce qu'on disait, est-ce que ça peut vraiment être une deuxième option ou est-ce qu'il est un peu en dessous? Là, il jouait clairement comme ça, et derrière, il se blesse. Alors, c'est pas. Tu dis, bah, c'est toi, Anunobi, et résumé en un match. En fait, t'es le moment où il te fait le plus croire qu'il est en train de passer un cap, bah, finalement, ça se réalise pas. Donc, c'est dur. Hein. Je dis ça avec un sourire, bien sûr. Mais par contre, c'est pas rassurant pour la suite. Et effectivement, là, à un moment, il y a Alec Burks qui va à la table de marque pour rentrer. Je dis, ah, bah, c'est déjà, tu dis. Il l'avait gardé dans le formol depuis son trade. T'es le mec, il n'était pas encore rentré quasiment depuis qu'il était à New York. Attends, son temps de jeu avec Burke sur le match, 1 minute. Il est rentré juste pour aller jusqu'à la mi-temps. Il n'a pas du tout retouché le parquet par la suite. Il y a un moment, ils vont manquer de joueurs. Hein. Et d'autant que, enfin, on en avait parlé dans le CQFR précédent, mais Mitchell Robinson ne reviendra pas.
Bojan
Donc c'est
Bogdanovic non plus, et
non
Julius
plus
Randle non
opéré.
plus. Ouais.
Donc
Donc.
c'est vraiment, voilà, ça, il y a un moment, ils vont. Enfin, il vous fait rentrer un mec au début, puis après il va le sortir, il va préférer jouer à 4, 4 contre 5 s'il faut, que faire jouer ses remplaçants, mais c'est un peu inquiétant pour New York, quoi.
Allez, on peut enchaîner avec le titre de MVP de Nikola Jokic. C'est officiel, ça y est, c'est son troisième titre de MVP en 4 ans. Il aurait presque pu en prendre 4 de suite. Jokic qui rejoint, c'est le 9e joueur de l'histoire à avoir au moins 3 MVP. Alors, est-ce que tu penses que ce trophée de MVP, ça le fait passer encore plus haut dans le classement des meilleurs joueurs de l'histoire? Ou est-ce que
Je
quelque
pense,
part
oui.
il y est déjà?
Ben non, je pense quand même parce que alors faudra voir ce que va donner la saison de Denver, hein, qui est menée qui est menée de 2 matchs là par dans sa série face aux Wolves. Non, je pense que c'est important effectivement pour cimenter sa place dans l'histoire. Ce que je regrette quand même toujours, moi, avec ces trophées, je trouve qu'ils sont donnés trop tard en fait. Je trouve
Ouais, je suis
que
d'accord.
voilà, tout devrait être donné pendant le premier tour au plus tard et c'est tout. Même si ça a pu passer, même voilà,
Je comprends
je trouve
même pas
ça.
l'intérêt, moi, de le faire, de faire attendre. Ça fait 3 semaines qu'ils ont les résultats, donc.
Ouais, et puis je trouve que plus t'attends, plus t'oublies que c'est un trophée qui récompense la saison régulière, en fait, et plus tu t'ouvres la porte à ce que tu te dises, ah, mais regardez, chez Gilgeous
Ouais.
Alexander, elle est encore incroyable avec OKC, ce qui est vrai. Hein,
Ouais.
encore une fois, on en a parlé plein de fois pour la saison. Pour les 3 finalistes, ça aurait pu être l'un des trois, ça aurait été tout à fait normal que ça soit l'un des 3 finalistes qui remporte ce trophée. Non, je trouve. Moi, je suis content quand même pour Jokic que j'adore comme joueur, voilà. L'an dernier, il aurait très bien pu le remporter aussi. C'était logique que Joel Embiid le gagne l'an dernier. Si Joel Embiid avait joué toute la saison, il aurait certainement été dans la course jusqu'au bout aussi. Et je pense que c'est important, ouais, pour la legacy de Jokic de remporter ce troisième trophée parce que après, enfin, tu sais, on en a parlé plein de fois, mais une fois que le temps a passé, c'est
Ouais,
là-dessus
ils
quand même que
donneront
tu te
plus là.
bases pour,
Ah oui, pardon, oui.
pardon, pour évaluer les joueurs en fait, pour voir. Qui valait quoi à son époque. Tu regardes les titres, tu regardes les trophées individuels, tu regardes aussi les sélections pour le All-Star Game. Alors, bah, chaque année, on se dit, on s'en fout en fait, on s'en fout un peu en fait, on s'en fout pas tant que ça parce que ça finit par avoir du poids quand t'as pas vu quand t'as pas vu les joueurs. Tu vois, nous, si on regarde les palmarès des joueurs des années 70 ou des années 60 qu'on n'a pas vu jouer, on est obligé de se fier un petit peu à ça. Donc non, je pense que c'est important pour sa place dans l'histoire.
Je pense que tu as raison. Il finit d'ailleurs justement, tu as cité chez Gilgeous Alexander, il termine deuxième. Luka Doncic est troisième. Ce qui est intéressant, c'est que les deux se jouent en ce moment. Alors on verra, est-ce que ça peut donner une motivation à l'un ou à l'autre de se dire, ah bah j'ai pas gagné le MVP ou ah bah, dans le cas de Doncic, ah il a fini devant moi. Mais oui, les trois auraient pu le prendre. Je pense que c'était très dur cette course au MVP. Et quelque part, Jokic, ça montre que sur cette époque, c'est le meilleur joueur. Enfin, de toute façon, c'est le meilleur joueur du monde. Mais ouais, je reviens sur le donner trop tard. Je suis d'accord. Ça me gêne, en fait. On est en plein deuxième tour. Ils sont menés 2-0. Tu vois, c'est très bizarre, en fait. Et il va même pas le célébrer, là, son trophée. Il est pas en train, tu vois. Enfin, je sais
Là,
pas.
c'est clair. Et puis limite, je trouve que c'est pas lui rendre service en fait de le donner à ce moment. Alors bon, tu peux dire bon bah si c'est le MVP devrait être et c'est lui qui devrait mener 2-0, mais c'est un trophée qui récompense la saison régulière, pas les playoffs. Donc ouais.
Ouais, ça crée l'amalgame. D'ailleurs, le MVP n'a pas été champion la dernière fois, c'est Curry en 2015 qu'on a eu un MVP qui termine champion. Si je dis pas de bêtises, hein. Ce 2016, c'est aussi Curry, il perd en finale. Westbrook 2017, Harden 2018, je crois. Giannis 2019-2020, ils ne sont pas champions. 2021, ça doit être le premier de Jokic. 2022, le deuxième de Jokic, ils ne sont pas champions. 2023, c'est Embiid, ils ne sont pas champions. Et donc, oui, c'est ça. Donc, le dernier, c'est 2015.
Bien vu, ouais.
Ouais.
Après, c'est normal, il y a souvent ce côté un petit peu de la nouveauté aussi pour le trophée de MVP. Donc,
Ouais.
alors que pour aller jusqu'au bout, il faut être un peu plus
Faut être déjà
expérimenté.
prêt, ouais.
Ouais.
Je suis d'accord. Bah, Théo, je te propose qu'on se laisse là-dessus. Et qu'on se retrouve demain. Alors, les matchs de ce soir, évidemment, je ne les ai pas
Je
mis
les
sous
ai, je
les
les
yeux.
ai.
Alors, vas-y,
Ben, ouais.
donne-nous les deux
Donc,
matchs.
il y a le match 2 justement de la série Dallas contre OKC et le match 2 des Cavs contre les Celtics.
Ok. Bah, écoute, impec. Bon, on débriefera ça ensemble demain.
Avec plaisir.
Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.
Ciao!